c'est très intéressant ce qui se passe ce matin parce que ça va très bien sans qu'on soit concerté, comme ça arrive souvent. Parce qu'on s'en émerveille à chaque fois quand des choses se passent comme ça. Ça va très bien avec ce que je viens vous dire ce matin parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ça fait plusieurs mois maintenant. En tout cas, plusieurs semaines, quelques mois sans doute, que le Seigneur me montre qu'on est à un virage dans l'Église. Je ne sais pas si certains l'ont perçu aussi, mais en tout cas, moi je perçois ça. On est dans un moment de changement dans l'Église. Alors, j'ai laissé tomber deux, trois trucs comme ça de temps en temps, parler un peu de ça. Sans que je sache exactement très bien de quoi il s'agit d'ailleurs, parce que c'est ça qui rend la chose un peu inconfortable pour moi, mais il y a quelques temps, par exemple, je vous ai parlé de celui de la télé qui est amoureux depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je suis parmi vous, des choses comme ça. Et le Seigneur est un peu plus précis il y a quelques semaines. Pareil, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais moi je vous transmets ce que j'ai reçu. Il m'a dit que le culte de Pâques, celui qu'on a vécu il y a 15 jours, va constituer un avant et un après dans l'Église. Il va y avoir un avant et un après. Alors je ne sais pas comment s'est passé le culte de la semaine dernière, je n'étais pas là, je faisais un truc nouveau, je travaille pour la première fois de ma vie, pour la première fois de notre vie aussi, tous ensemble. Donc je ne sais pas comment s'est passé le culte de la semaine dernière, en tout cas celui-là avait quelque chose de nouveau, effectivement, il me semble, en tout cas, on a vécu des choses qu'on ne vit pas habituellement. Et suite à ce culte de Pâques, j'ai fait un rêve, ça aussi, un rêve spirituel, ça ne m'arrive pas toutes les nuits, mais là c'est arrivé. C'était donc dans la nuit du dimanche au lundi, plus exactement, c'était lundi matin, vous savez, quand vous êtes à ce moment-là où vous n'êtes pas réveillé, mais vous ne dormez pas non plus, parce que c'est ce truc un peu intermédiaire. Et là, le Seigneur est venu me parler à ce moment-là. Il m'a donné un texte et une prédication pour aller avec. Alors, c'est génial, ça m'a fait beaucoup de boulot. Merci. C'est chouette, donc du coup, je ne vais pas reprendre encore la série que je fais sur l'Épître aux Colossiens, que vous avez peut-être oublié que je faisais une série sur l'Épître aux Colossiens, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on l'a laissé de côté, avec Pâques et tout ça, mais si, il reste, je crois, d'autres prédications là-dessus, donc je la laisse de côté pour l'instant pour vous amener ce que le Seigneur m'a donné. Et ce texte qu'il m'a donné, on trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10. Donc on va aller dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, si vous voulez suivre. Il n'y aura rien d'affiché aujourd'hui, c'est aussi un jour. Voilà. Luc 10, et versets 25 à 37. Alors c'est une parabole qui est bien connue, qui est la parabole du bon samaritain. Et qui nous dit ceci. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, mon prochain. Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, il le vit et passa à distance. Un Lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa à distance. Et un Samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et branda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au l'un des bandits ?» Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Alors c'est intéressant parce que ce spécialiste de la loi arrive et sa question c'est « C'est qui mon prochain ? Qui est mon prochain ? Qui est celui-là que je dois aimer comme moi-même ?» Et finalement, Jésus, la réponse qu'il apporte, c'est une autre question quelque part, c'est en fait de qui tu es le prochain à toi ? Parce que dans la parabole, si on la lit bien, le prochain de l'homme à terre, c'est le Samaritain. Il ne dit pas que le prochain du Samaritain, c'est l'homme à terre. Il dit l'inverse. Le prochain de l'homme à terre, c'est le Samaritain. Donc, Jésus déplace là le centre de gravité de la question. Le prochain n'est pas celui qui a besoin, mais c'est celui qui se rend proche. Il me semble que cette parabole nous pose cette question. De qui est-ce que moi, je suis le prochain, en fait ? Le Samaritain est le prochain du blessé parce qu'il a choisi, à un moment donné, de se rapprocher, contrairement aux deux autres qui sont passés sans s'arrêter. Lui, c'était le prochain de l'homme à terre. Et la première question que cette parabole me pose à moi, c'est quelles sont mes priorités ? Quelles sont mes priorités ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas quand on voit un homme à terre ? Alors là, on a deux hommes qui passent, un prêtre et un lévite. Sont des religieux. Alors je me sens particulièrement concerné, non pas parce que je me crois très religieux, mais parce que je sais que le monde tout autour me regarde comme étant un religieux. Ils nous regardent aussi d'ailleurs tous comme étant des gens religieux, voilà, quand on pense du terme, si c'est approprié ou pas. Et ces religieux-là passent, ils voient le Samaritain, l'homme à terre, c'est un juif en fait, ils le voient. Mais ils ne s'arrêtent pas, ils poursuivent leur route. Je me sens concerné parce que on peut se demander pourquoi ils ne sont pas arrêtés en fait. Et le texte ne dit pas pourquoi ils ne sont pas arrêtés, mais en fait je me sens concerné parce que je sais pourquoi ils ne sont pas arrêtés. Je le sais parce que moi-même, il y a plein de fois où je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté parce que j'ai une prédication à terminer. Voilà. Je suis attendu le dimanche matin. Il y a toute une assemblée là qui est devant moi qui s'attend à ce que je prêche. Si je m'arrête, comment je vais finir ma prédication ? Comment je vais y arriver ? Je ne m'arrête pas parce que j'ai un rendez-vous. Je ne m'arrête pas parce que voilà, je suis attendu quelque part et je dois accomplir quelque chose. Et donc, je n'ai pas le temps. Et je vais comprendre ces gens-là. Je vais comprendre, ils ne veulent pas décevoir peut-être à l'arrivée ceux qui ont des attentes, qui sont légitimes en plus vis-à-vis d'eux. Et peut-être qu'ils se disent, il y en aura un autre qui lui s'arrêtera. Peut-être même qu'ils se disent, en fait, moi je suis un enseignant, je suis un maître de la loi, mon boulot c'est ça. C'est pas de m'arrêter pour aider cet homme à terre, mon boulot, moi, c'est d'enseigner. Donc je vais aller au temple et je vais aller enseigner aux gens à s'arrêter auprès de l'homme à terre. Ça, c'est leur boulot à eux. Moi, je dois leur dire qu'il faut le faire. C'est ça mon travail. Vous voyez, on peut être tordu comme ça, je veux dire. Des raisonnements qu'on peut se faire, en tout cas. Et Jésus n'a pas l'air trop d'être d'accord avec ça. En fait. Il a plutôt l'air de dire le prochain de l'homme à terre, c'est bien celui qui s'arrête, quand bien même ça serait un Samaritain, c'est lui qui s'est rendu proche. Donc je me reconnais là-dedans, et en fait, le risque, je prends en perçois, hein, c'est de faire passer les tâches, les échéances, les obligations, ce qu'on s'est dit comme. Comme obligation, soi-même d'ailleurs, les attentes des autres, etc., c'est de faire passer tout ça avant les personnes, avant les gens, ceux qui sont là sur le chemin, sur la route, et qui peut-être vont venir bouleverser complètement notre agenda, vont peut-être nous empêcher, de, par leur simple présence et par leurs besoins, d'accomplir ce qu'on avait prévu de faire. Alors, il y a un philosophe juif du XXe siècle qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Il en cite des gens, En fait, j'ai jamais vu Emmanuel Lévinas, je ne sais même pas qui c'est ma femme qui l'a lu. Mais elle m'a répété une phrase de lui que je trouve très jolie, qui est facile à retenir de cette punchline qu'on retient facilement. Il dit, lui, les visages avant la Torah. Les visages avant la Torah. C'est pas rien pour un philosophe juif que la Torah, c'est important. C'est comme si je vous disais mon voisin avant la Bible. Il y a un truc qui ça vient gratter chez nous, quoi. On se dit, ah, quand même, la Bible, quoi. Et bien, mon voisin avant la Bible. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Ben, je crois que oui, c'est juste, en fait, parce que la Bible nous envoie vers notre voisin, en fait. Quand Jésus dit, par exemple, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ça, c'est le premier commandement. Mais il y en a un deuxième qui lui est semblable. Il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Semblable, c'est la même chose. C'est semblable. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Et d'ailleurs, on lit par ailleurs aussi que si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, le visage avant la Torah, effectivement. Le genre, la personne sur le bord du chemin, avant la prédication, avant le rendez-vous important, avant, je ne sais pas quoi, le Conseil national de chez Babou, etc., etc. Les visages avant la Torah. Et ça remet en cause, ça remet en question peut-être notre manière de fonctionner, en tout cas la mienne à coup sûr, parce que jusqu'à présent, et je crois que je l'ai fait avec raison, j'insiste pas mal sur la responsabilité individuelle de s'occuper de sa propre foi. Je pense que c'est ce qu'on doit faire, on doit aller chercher les ressources dont on a besoin. On est responsable de grandir dans notre foi, chacun, tous et toutes. On est responsable de ça. On ne peut pas rejeter, je dirais même, la faute sur un autre en disant « Ah, c'est parce que machin n'a pas enseigné. » Si tu as besoin d'enseignement et que tu ne le reçois pas où tu es, cherche-le, trouve-le, tu as besoin de grandir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais avec cette manière de penser, ce que moi j'ai fait jusqu'à présent, ce que j'ai imaginé jusqu'à présent, c'est de me dire bah, il faut qu'on ait des. J'en ai même parlé en assemblée générale, vous voyez, je vais revenir sur ce que j'ai dit en plus. Il faut qu'on ait des programmes qui soient là pour répondre aux besoins des gens. Donc, les jeunes. Les personnes qui sont en recherche, il faut comme quelque chose à leur proposer, donc on peut mettre en place un parcours alpha. Et puis après, un parcours de préparation au baptême, ça en a déjà. Et puis après le baptême, il faut qu'ils puissent commencer à faire leur premier pas dans la foi, donc un parcours vers la liberté en Christ, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, on a terminé il n'y a pas longtemps. Et puis, une fois qu'ils savent qui ils sont en Christ, il faut qu'ils puissent approfondir dans la parole, donc ça serait bien qu'il y ait une étude biblique à l'Église. Et puis, après l'étude biblique à l'Église, peut-être qu'ils vont vouloir servir dans l'Église, et alors il faut les équiper. Et donc, ça serait bien qu'il y ait un parcours aussi pour former les responsables. Et là, qu'est-ce que je fais en faisant ça? Si on met tout ça en place comme ça, ce qu'on fait là, c'est qu'on met la Torah avant les personnes. Parce que les personnes ne sont pas là, en fait. On crée un programme, et puis on dit, il y en a bien qui veut. Et je crois que c'est, en fait, prendre les choses à l'envers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire toutes ces choses-là, mais je dis qu'il faut les faire à partir des personnes. Par exemple, on pourrait mettre en place un parcours alpha, pourquoi pas, mais moi je dirais on mettra en place si parmi nous, il y a, je ne sais pas, 10, 20 personnes qui sont en train de prier déjà pour leurs voisins, qui aimeraient les inviter à l'Église, et on prie pour eux. Là, on a des personnes. Alors oui, là on peut apporter l'enseignement à ces personnes, mais les personnes d'abord. Parce que sinon, on crée une coquille vide, on met en place un parcours alpha, puis après on dit, allez, viens qui veut, et puis qui vient? Ben, les gens de l'Église en général, ils viennent, parce que ça les intéresse, c'est bien, mais c'est pas eux qu'on a pensé. Le problème c'est que les gens à qui on a pensé, ils n'existent pas, ils ne sont pas là. Donc les personnes avant la Torah. Et la deuxième chose, c'est que, avec cette idée de dire, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs parfois à des gens qui vont vers le baptême, je le dis souvent, le baptême, c'est pas une fin en soi, c'est un début. Le baptême, c'est un diplôme de fin d'études, c'est le début d'autre chose, c'est le début de la vie d'ici. Mais c'est ça, la question, c'est le début de quoi? Alors, la réponse à ça, c'est le début de, tu vois, il y a des groupes de maisons, tu peux y aller si tu veux, il y a, je sais pas, il y a un parcours à la fois, il y a tout un tas de choses qui sont là à ta disposition, puis toi, prends-toi en main, puis vas-y, toi. Tu choisis où tu as besoin d'aller, tu y vas. Mais on a un problème parce que dans cette parabole, on a un blessé, et le blessé, il ne demande rien du tout. Il ne demande rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est à moitié mort, en fait. Il est incapable de formuler un besoin. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut être incapable de formuler un besoin dans l'Église. La première, c'est qu'on peut ne pas avoir du tout conscience de son besoin. En fait, autour de nous, il y a des tas de gens qui sont morts, spirituellement morts. Ma propre conversion est issue de ça, quelque part. Je dis parfois que j'ai connu le diable avant de connaître Dieu. J'avais un avant-goût de ce qu'était l'enfer dans ma vie. Et quand quelqu'un est venu et m'a dit que, en fait, il y avait la possibilité de sortir de ça, ben ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle. Et moi, jamais j'aurais cherché quoi que ce soit parce que je ne savais pas, en fait. Pour moi, c'était la condition de vie normale. J'avais aucune idée qu'on pouvait sortir d'un truc pareil. Et donc, il y a des gens qui ont besoin qu'on aille les chercher, en fait, parce qu'ils n'ont absolument pas conscience du besoin. Alors, je parle des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Christ, qui ne savent pas à quoi ils passent, en fait, qui ne savent pas lequel c'est. Mais on peut parler, nous, ici. On a tous besoin d'avoir des vis-à-vis parce qu'on a tous des angles morts dans nos propres vies. Il y a tous des choses qu'on ne voit pas dans nos propres vies. On ne voit pas, on est aveugle sur beaucoup de choses. Il y avait dans ma famille quelqu'un qui était un, on va dire, un vieux garçon, quelqu'un qui a vécu célibataire presque toute sa vie, qui a vécu seul. Et en soi, ce n'était pas évidemment un problème, mais c'est important, même quand on est célibataire, donc on s'adresse aux célibataires, d'avoir des vis-à-vis, des amis, des gens qui nous entourent et qui sont capables de nous parler franchement. Parce que sinon, il risque de se passer ce qui lui est arrivé à lui. À savoir qu'un jour, on l'a invité chez nous, à la maison, et puis il y avait du vin à table, il se sert du vin, et puis après, vous savez, il y a la petite goutte qui coule le long de la bouteille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a léché. Chez nous, parce que la bouteille est commune, c'est pas sa bouteille perso à lui. Pourquoi? Parce qu'il vit tout seul, et que chez lui, il fait ça, et qu'il lui en voudra. Et ça dérange qui? Ça dérange personne, c'est sa bouteille, il est tout seul. Seulement, il se rend même plus compte qu'en fait, on ne peut pas faire ça en société, quoi. Il ne se rend pas compte, parce que c'est un réflexe. Si on n'a pas quelqu'un, à un moment donné, qui nous dit « Non, mais attends, là, ça ne va pas. Je vois un truc chez toi qui dysfonctionne un peu. » On peut le dire gentiment. Eh bien, on peut ne pas s'en rendre compte. Et c'est assez dramatique. Bon, là, c'est un peu anecdotique, évidemment, mais il y a des choses beaucoup plus graves dans nos vies. C'est comme ça. On a besoin d'avoir un vis-à-vis. On a besoin, chacun, d'avoir quelqu'un qui vient nous chercher et qui nous dit « Là, il y a un truc vraiment bizarre. » Et la deuxième raison pour laquelle on peut ne rien demander, quelqu'un peut ne rien demander dans l'Église, c'est parce qu'il ne se rend pas compte du trésor qui est en lui. Il y a des choses qui sont négatives, qu'on ne voit pas, mais il y a aussi des belles choses qui sont en nous qu'on ne voit pas. Et là, par exemple, au détour d'une conversation, quelqu'un qui nous parle, et ce qu'il nous dit, vient changer quelque chose de fondamental dans notre vie. Et on se dit, mais ce truc-là, il faut le partager. C'est super bien dit, c'est super intéressant. Et on lui dit, t'as jamais pensé à prêcher? Et on te dit, prêcher moi? Mais je suis personne pour prêcher, qui je serais pour prêcher? Là, moi, j'ai vu ça en toi. J'ai vu ce trésor en toi. Moi, je crois que c'est super, en fait, que l'Église s'entende. Il y a des gens qui ne voient pas ça en eux-mêmes. Et je dirais presque que c'est mieux, même quand on ne le voit pas. C'est mieux quand c'est les autres qui le voient. Parce que c'est à ça, souvent, que ressemble un appel de Dieu. Un L'appel de Dieu, souvent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément soi-même. On se dit, c'est beaucoup trop grand. Qui je suis, moi, pour faire un truc pareil. C'est Moïse qui dit, moi, je ne sais pas parler. C'est bien parce que tu m'envoies. Mais les autres le voient. C'est pour ça que c'est chouette d'être en église. Parce qu'il y en a qui voient ça. Et s'il y en a deux, trois, quatre qui te lisent, peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser la question et se dire, bah, moi, je ne le sens pas, mais je vais quand même essayer. Parce que, va voir, quoi. Va voir. Et si ça fonctionne, alors là c'est merveilleux parce que la personne embrasse à Dieu, parce qu'elle, elle sait bien qu'elle est plus capable de faire ça. Donc elle embrasse à Dieu et ça rend gloire au Seigneur. Parfois les gens s'approchent de Jésus parce qu'ils connaissent leurs besoins. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je suis aveugle, ça m'aiderait éventuellement pouvoir revoir un jour. Bon, voilà. Et Jésus guérit ce besoin. Mais tout aussi souvent, Jésus va voir des gens et les appelle. Il dit, toi, suis-moi. Il les équipe. Et puis, une fois qu'il les a équipés, il les envoie. Maintenant, on peut faire pareil. On peut dire à quelqu'un, j'ai vu ton besoin. J'ai vu le trésor qui est en toi. Et si tu veux, moi, je peux t'accompagner sur un bout de chemin. Je peux faire un bout de route avec toi. Ça, c'est notre responsabilité à tous. Mais c'est aussi une transformation pour notre Église. Devenir une Église qui voit les visages avant les programmes, qui voit les visages avant la Torah. C'est une transformation parce que ça repose sur le fait que c'est en chemin qu'on fait les disciples. Alors je l'ai souvent mentionné, ça, ce fameux verset de Matthieu 28:20 qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Souvent mentionné que dans le grec, c'est pas aller, c'est allant, en chemin. Et c'est curieux parce que cette expression, c'est une expression qu'on retrouve aussi quand Jésus envoie ses disciples en chemin, proclamer que le règne des cieux est proche, etc. Guérissez les malades, toutes ces choses. En chemin. C'est en chemin qu'on fait les disciples. Et du coup, c'est forcément dérangeant parce qu'on est en chemin vers le temple pour aller enseigner. Et là, il y a un pénible qui est là, et qui vient perturber mon programme. Parce qu'il a un besoin. Et c'est moi qui l'ai vu, pas Paul. Qu'est-ce que je fais? Je vais au temple pour faire ce que tout le monde attend que je fasse. Ou est-ce que je les laisse en plan pour m'occuper de celui qui a un besoin? Peut-être que j'y arrive en retard. Qu'est-ce que je vais faire? Cette parabole me dit « Arrête-toi ». Alors, c'est pas facile, c'est un risque. C'est un risque qu'on prend. Parce que, voilà, tu avais un but, mais sur le chemin, il s'est passé des choses que tu n'avais pas prévues. Le Samaritain aurait pu faire autre chose. Ce n'est pas mentionné ici, mais il aurait pu faire autre chose. Là, il s'arrête pour aider le juif blessé, et ému de compassion, il s'arrête. Mais il aurait pu aussi se dire, en fait, c'est pas mon boulot, ça. Déjà, c'est un juif. Moi, je suis un samaritain qui se débrouille entre eux, pour commencer. Et il aurait même pu se dire, ça, c'est le boulot des religieux. Donc, les deux, là, qui sont passés, qui ne sont pas arrêtés, je leur cours derrière, je leur dis, hé, vous n'avez pas vu, mais il y a un besoin, là. Il y a un besoin. Et il aurait pu repartir satisfait en disant, ben voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Moi, j'ai signalé qu'il y avait un besoin et c'est à lui de faire un boulot s'il ne le fait pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. On peut se dire, j'ai vu un besoin. Je l'ai dit au conseil pastoral. Je l'ai dit au pasteur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Je l'ai dit à la commission en fait. C'est bon, j'ai fait mon boulot. Mais eux, ils font rien. Ils ne touchent pas. Pourquoi ils n'ont rien fait? Je les ai prévenus pourtant. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait. Ben, c'est pas juste. Voilà, je vous le dis, c'est pas juste. Déjà, parce que si on compte sur le conseil pastoral, par exemple, pour faire le boulot, ben, les quatre, peut-être 200, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Tu as vu le besoin, c'est à toi de t'arrêter. C'est ce que nous dit la parabole. Alors, on peut se dire, moi, je n'ai pas les épaules, c'est trop gros, ce besoin, il est trop énorme. Ben c'est là que c'est chouette, on est en église. On n'est pas tout seul. Il y a des besoins qui sont trop lourds à porter pour une seule personne. Mais c'est toi qui as vu. C'est toi qui es responsable de ce que tu as vu. C'est à toi de t'arrêter. Et tu vas aller chercher de l'aide. Tu vas parler autour de toi. Il y a même plus, il faut, en fait. Il faut, et notamment, il faut que le conseil pastoral soit effectivement au courant de ce qui se passe, parce que sa responsabilité, c'est pas d'être au chevet de tout le monde, mais c'est de s'assurer que tous ceux qui ont un besoin, effectivement, il y a quelqu'un qui les aide. Ça, c'est notre boulot au conseil pastoral, c'est le boulot du pasteur, mais c'est pas à nous de le faire, évidemment. Évidemment. Donc, si vous voyez un besoin, arrêtez-vous. Proposez votre accompagnement si vous êtes en mesure de le faire, et si vous ne vous sentez pas en mesure de le faire, proposez quand même, peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un qui peut t'accompagner, qui peut t'aider. Il y a des choses qui sont en place dans l'Église, même si elles ne sont pas en place dans l'Église, même si elles n'existent pas encore, parce qu'il y a un visage, on peut amener la Torah, parce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin, on peut venir et on peut aller l'aider. Et on peut trouver de l'aide autour de nous, aller chercher les bonnes personnes et prévenir le conseil pastoral pour dire voilà, ça y est, là ça fait 15 jours, on a décidé de se retrouver, on va lire la Bible ensemble parce qu'il a besoin de ça. Là, on va se retrouver, on va prier ensemble, parce que cette personne a besoin de ça. Et nous, ça nous permet de voir que tout le monde est bien accompagné. Alors, moi, j'ai pris une décision personnelle, qui est un pas de foi pour moi-même, et c'est que je ne vais plus rien faire. Je ne vais plus rien faire. Je vais être, je veux être là où Dieu veut que je sois. Je vais préparer ma prédication au dimanche, bien sûr. Et si en chemin, le Seigneur me dit que je dois m'arrêter pour aider quelqu'un, je vais m'arrêter pour aider quelqu'un. Ça va peut-être changer un peu la nature de ma prédication, mais finalement, quand je pense à la manière que Jésus lui-même a eu de prêcher, je me dis que c'est souvent partie des personnes, quand même. J'ai pas d'exemple en tête où on le verrait préparer son truc pour la synagogue, et on se dit, je vais prêcher là-dessus. Ce que je vois beaucoup, c'est l'interaction avec les gens qui fait qu'à un moment donné, on lui pose une question, il répond. Et ça, c'est un enseignement. Ou il se passe quelque chose autour de lui, une femme qui vient tirer sur la manche de son manteau, il sent une puissance sortir de lui, et puis là, il y a un enseignement qui est là. Et du coup, on attend parfois de la prédication qu'elle nourrisse les gens, et c'est bien, mais j'ai l'impression que tout aussi souvent, ce sont les gens qui nourrissent la prédication. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'essayer de vivre, que ce soit les gens qui nourrissent ma prédication. On verra ce que ça donne. C'est une prise de risque, mais je vais la prendre. Évidemment, quand je dis que je ne vais rien faire, vous avez compris, et c'est plutôt que je vais faire les choses en sens inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Les visages avant la Torah. Il y a autour de nous des personnes qui sont blessées, des personnes qui ont soif de Dieu, qui ont soif d'être accompagnées. Il y a des jeunes, il y a des nouveaux croyants. J'ai en tête deux personnes avec qui j'ai discuté récemment. La première, c'est quelqu'un qui revenait tout juste de Chambéry, je t'aime, une jeune, qui était à fond avec tout ce qu'elle avait vécu, quoi, tout ce qu'elle avait vu. Et c'était merveilleux, en fait, d'entendre ça. Je voudrais vous dire, par exemple, qu'à Chambéry, je t'aime, il y a une jeune de 14 ans, même pas encore baptisée, qui était dans la rue, qui allait vers des gens qu'elle ne connaissait pas, des inconnus, qui témoignaient de sa foi en Christ. C'est pas beau, ça? C'est super. C'est vraiment beau de voir ça. Il faut que vous puissiez entendre ça aussi. C'est le grand privilège du pasteur de pouvoir entendre des choses pareilles. Et ces choses-là existent au milieu de nous. Et cette jeune qui me parlait de son expérience à Chambéry, je t'aime, à un moment, elle me dit on est des jeunes, on a soif, on a besoin d'être accompagné. Et la réponse à ça, en fait, ça ne peut pas être t'as des groupes de réseau, t'as des groupes de jeunes, voilà, essaye de trouver un truc. La réponse à ça, ça doit être, t'as besoin d'être accompagné? Ben super, je vais t'accompagner. On y va, c'est parti. Bon, t'as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on apporte comme réponse. La deuxième, c'est une personne baptisée il y a quelques temps, à qui j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que que le baptême, je le dis parce que je le dis à tous les baptisés, surtout le baptême, c'est pas une fin en soi, c'est un diplôme de fin d'études, c'est le début d'autre chose. Et effectivement, jusqu'à présent, c'était le début de la vie, toute ta place dans l'église, quoi, des trucs quoi, en main, voilà. Et c'est juste hein, une part qui est celle-ci, qui on doit se prendre en main, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Mais là, je lui ai dit autre chose. Je lui ai dit, en fait, on t'a accompagné jusqu'au baptême, et c'est pas fini, hein. On va pas te lâcher comme ça, en fait. On va pas te lâcher parce que le but, c'est pas que tu sois baptisé. Le but, c'est que tu sois disciple de Christ. Alors, on va continuer de t'accompagner. Et on va t'accompagner jusqu'à ce que toi-même, tu puisses transmettre ce que tu as reçu. Que toi-même, tu accompagnes d'autres personnes dans l'Église. Voilà ce qui va se passer. Eh bien, elle était émue aux larmes. Elle a dit, mais c'est ça que je veux. C'est ça que j'attends. Et c'est ça qu'on doit faire pendant cette classe. J'ai parlé des jeunes et des nouveaux croyants, et on peut parler de nous tous. Nous tous qui avons besoin et soif de grandir dans tel ou tel aspect de notre foi. On a tous besoin d'être accompagnés et on a tous la possibilité d'accompagner quelqu'un d'autre quand on observe le besoin chez l'autre. On peut lui proposer ce chemin. On a donc cette double responsabilité, je vais terminer là-dessus, qui est d'un côté de chercher à grandir dans notre vie de disciple sans blâmer l'Église pour ses manquements, mais en se prenant en main soi-même, en disant j'ai besoin de ça, il faut que je le trouve, il faut que je le trouve, je vais le prendre en main. Et puis la deuxième responsabilité, qu'on oublie parfois, je crois, c'est de chercher à aider les autres à grandir. Ce qui veut dire être en relation déjà les uns avec les autres. Ça commence par discuter les uns avec les autres, aller voir des personnes nouvelles, parler avec elles, les découvrir, parce qu'elles en sont dans le chemin de foi, avoir ce genre de conversation. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'au détour d'une conversation, on va voir ou un besoin qui va combler, ou un trésor qui est à faire émerger. Et peut-être qu'on se dit, mais ça, je peux accompagner. Sur cet aspect-là, c'est pas forcément un truc grandiose, mais cet aspect-là, je vois que cette personne, elle est un petit peu seule dans son coin, ça, je peux accompagner. Je peux aller voir le dimanche, je peux dire bonjour, je peux l'inviter à manger. C'est des choses toutes simples comme ça, parfois. Ça, je peux faire, c'est à ma portée, je peux le faire. Et si je vois un besoin qui est trop grand pour moi, ben on peut en parler éventuellement ensemble, et puis je peux dire, si tu veux, on peut essayer de chercher un peu d'aide dans l'église. Il y a des gens qui peuvent accompagner ça. Moi, je ne peux pas, c'est trop grand, c'est trop lourd. Il y a des gens qui peuvent accompagner ça, qui peuvent t'accompagner sur ce niveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout ça en lien, encore une fois, avec l'église et le conseil pastoral. Je crois que c'est important, parce que nous sommes l'église. Il ne s'agit pas, je dirais, de faire un accompagnement sauvage, comme ça, tout le monde fait tout ce qu'il veut, comme il veut, n'importe comment. Ce n'est pas ça, on est ensemble et on veut être cette Église qui grandit dans sa foi et qui est en mesure d'accompagner les autres. Parce que finalement, c'est ça, devenir le prochain de l'autre. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de transmettre. Je vais prier. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce cadeau qu'est l'Église, parce que tu nous as offert les uns aux autres. Nous sommes un don de toi, les uns pour les autres. Nous avons besoin les uns des autres, et les autres ont besoin de nous. Seigneur, nous savons qu'il y a des besoins. Nous les voyons parfois. Nous les observons, parfois nous les commentons même, en retrait. On dit, ah, j'ai vu un tel, il se passe ça, on en discute. Mais en vrai, on passe au large. On ne s'arrête pas auprès de cette personne dont on a vu le besoin. Seigneur, je te prie de nous donner l'audace, à chacun, quand on voit un besoin, de s'arrêter, de s'approcher, de commencer par démarrer une relation, simplement, discuter, échanger. Il ne s'agit pas d'y aller avec nos gros sabots, mais de pouvoir commencer à échanger, et puis peut-être à un moment donné, de pouvoir dire, j'ai vu ça chez toi, Est-ce que tu veux qu'on fasse un vœu de route ensemble? Est-ce que tu veux que je t'aide à répondre à ce besoin que j'ai observé? Peut-être que tu n'as même pas vu toi-même. Il y a une réponse à ça, et je la connais si tu veux, je peux te la partager. Je peux marcher avec toi, un vœu de route. Je peux chercher quelqu'un qui peut t'aider là-dessus. Au contraire, j'ai vu ce trésor en toi. Est-ce que tu veux bien qu'on essaye de le faire émerger, parce que vraiment ça serait chouette, ça serait une bénédiction pour tellement de monde. Ce que j'ai entendu là, d'autres ont besoin d'entendre. Il faut que tu puisses prendre la parole, par exemple. Et je sais que tu n'oses pas. Tu dis, moi je ne suis pas fait pour aller loin. Mais ce que tu as là, c'est un trop grand trésor, tu le caches. Est-ce que tu veux qu'on t'accompagne là-dessus? Seigneur, on veut être ces personnes les uns pour les autres. On veut être ce prochain, celui qui s'approche, celui qui voit le besoin et qui va s'approcher. On veut oser se laisser bousculer dans nos agendas. Parce que il y a plus important que le rendez-vous à venir, plus important même que la prédication, il y a les personnes. Donc, pour que ce soit les personnes, la relation qui viennent nourrir notre parole, qui viennent nourrir notre enseignement. Parce que c'est sans doute la meilleure manière pour que notre enseignement nourrisse les personnes. Aide-nous à vivre ça, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.
Nous sommes un don du Seigneur les uns pour les autres. Cette phrase, du coup, elle me touche, du coup, je vais la garder. Même si je sais que des fois les gens regardent et disent « merci du cadeau hein. ». Nous sommes un don du Seigneur les uns pour les autres. On va passer aux annonces.